les yeux fixés sur toi. Puis dans la deuxième strophe, ton doux regard me suit. Je pensais à ce double regard de nous sur le Seigneur et du Seigneur sur nous. Et on pourrait lire quelques versets dans la parole à ce sujet. On peut commencer par l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2. On peut commencer au milieu du verset 8. Et maintenant, nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit assujettie, mais nous voyons Jésus, qui a été fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, en sorte que par la grâce de Dieu, il goûta la mort pour tout. Papa nous a lu hier soir ce verset de l'Épître aux Hébreux. Et en y repensant hier soir, je me suis rappelé qu'il y a 30 ans, la première école du dimanche que Robert nous a faite, il nous avait fait apprendre ce verset. Nous voyons Jésus. Et en nous disant, ce verset, c'est le verset central de l'Épître aux Hébreux. Je devais avoir, peut-être 8 ans. Et ça m'est resté. Ça m'est resté, pour autant, je ne suis pas sûr que j'avais vraiment compris comment est-ce qu'on pouvait voir Jésus. Ce que ça voulait dire, voir Jésus. Et en relisant ce verset, on peut en voir toute la richesse et les encouragements dans ce tout petit verset. Ce verset, quand on commence au verset 8, il nous dit, quand on regarde sur la terre, ben on ne voit pas Jésus. On ne voit pas que cette gloire, cette soumission du monde, cette victoire, elle n'est pas évidente, elle n'est pas manifeste, comme dit le verset. Mais si on lève les yeux, si on ouvre les yeux, qu'on regarde dans le ciel, on a ce privilège de le voir glorieux. On a le privilège de savoir ce qui s'est passé, par où il est passé. Il a été fait un peu moindre que les anges, on l'a rappelé ce matin. En sorte que, pour que, par la grâce de Dieu, il goûte la mort pour tout. Il traverse. Il expérimente au plus profond de lui-même cette traversée de la mort pour tout. Et la note nous dit pour chacun. Alors quand on est découragé de voir l'état du monde, de voir la façon dont Jésus est considéré aujourd'hui, eh bien, on peut lever les yeux. On peut se souvenir, comme on l'a fait ce matin, de cette relation intime entre le Père et le Fils, de ce don, de cet abaissement, et du pourquoi de ça. conscience s'en souvient le dimanche, c'est aussi de se souvenir pourquoi Jésus a fait ça. Quel était son but et le résultat de cette œuvre. Et le voir glorieux et savoir qu'un jour, tout le monde reconnaîtra ça. Tout genou se ploiera. Et Jésus glorieux dans le ciel sera aussi adoré et glorieux sur la terre lorsqu'il régnera. Quel privilège déjà maintenant de voir Jésus. Et alors, j'aimerais lire un verset dans l'Exode qui nous fait comprendre un peu plus ce privilège. Exode 33, au verset 18. Moïse qui parle à Dieu. Fais-moi voir, je te prie, ta gloire. Et Dieu lui dit, je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai le nom de l'Éternel devant toi, et je ferai grâce à qui je ferai grâce, et je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Et il dit, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, et tu te tiendras sur le rocher, il arrivera que quand ma gloire passera, que je mettrai dans la fente, je te mettrai dans la fente du rocher, et que je te couvrirai de ma main jusqu'à que je sois passé, puis je retirerai ma main, et tu me verras par derrière. Mais ma face ne se verra pas. Et on peut lire dans la deuxième épître aux Corinthiens, dans le début du chapitre 3, l'apôtre rappelle ce voile qui était sur la face de Moïse quand il est descendu de la montagne après les scènes qu'on vient de lire. Il avait voilé sa face parce que personne ne pouvait le regarder en face tellement son visage était lumineux. Et on peut lire au verset 18. Or nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. Moïse était un intime de Dieu. Il parlait avec lui comme un homme parle avec son ami. Et pourtant, Moïse ne pouvait pas regarder Dieu. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Alors Dieu le couvre de sa main et lui fait discerner, lui montre. Moïse demande à voir sa gloire. Et qu'est-ce que Dieu lui montre ? On peut retourner au chapitre 33. Moïse dit, fais-moi voir, je te prie, ta gloire. Et Dieu lui répond, je ferai passer toute ma bonté devant ta face. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Moïse veut voir sa gloire. Et Dieu lui montre quelque chose de plus intime encore, la grâce de Dieu. Tout son amour. On peut penser aussi à Élie, dans un lieu un peu semblable. qui veut, chacun pourra lire ça dans le premier livre des rois. Il n'est pas dans le même état d'esprit que Moïse, il est en révolte contre Dieu. Et il veut parler avec Dieu, enfin, ou plutôt Dieu lui parle. Et il y a d'abord du tonnerre, il y a d'abord des éclairs, il y a tout un tas de choses, du vent, je crois. Et Dieu n'est pas dans le tonnerre, Dieu n'est pas dans le vent. Et tout à coup, il y a une voix douce et subtile. Et Dieu est dans cette voix douce et subtile. À ses serviteurs, dans l'Ancien Testament, Dieu se révélait déjà dans cet amour, cette grâce, cette subtilité. Que seuls des très très intimes de Dieu, comme Moïse ou Élie, pouvaient connaître. Mais même eux ne pouvaient pas voir Dieu. Et nous, qu'est-ce que nous dit l'Épître aux Corinthiens ? Contemplant à face découverte. Nous, on a ce privilège de connaître encore plus intimement ce qu'est Dieu, qui il est, quel est son amour. On l'a lu ce matin, le Fils de Dieu, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Pourquoi ce rappel de « qui est dans le sein du Père » avant de lui dire, nous dire « il nous l'a fait connaître » Le verset pourrait dire « le Fils de Dieu nous a fait connaître Dieu ». Mais s'il est dit le Fils de Dieu qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître, c'est bien que cette connaissance de Dieu que nous apporte Jésus, c'est la connaissance de cette intimité, la connaissance profonde de l'amour de Dieu, de sa grâce, de qui il est profondément. Alors on peut le contempler, on peut admirer, on peut regarder ça pleinement. Toute la parole nous révèle Dieu, nous révèle le Seigneur et nous permet de le contempler, nous permet d'admirer, de regarder ses différents aspects, toutes ses facettes de sa personne, de qui il est, de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il fait pour nous. On a une source infinie de connaissances de Dieu à travers sa parole et l'Esprit Saint. Alors profitons-en pour le contempler. Contempler, c'est pas juste regarder. C'est pas juste voir, contempler, c'est voir tous les aspects, c'est regarder, admirer, comme une boule dont on regarde toutes les facettes. Et quelle est la conséquence ? Nous sommes transformés. Transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. Contempler Dieu, ça n'est pas sans conséquence. Ça ne peut pas être sans conséquence. Pour le contempler comme ça, il faut accepter le Seigneur. C'est par le Seigneur qu'on peut connaître Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Quand on contemple Dieu, quand on contemple qui il est, quand on rentre dans ce qu'il est, ce qu'il a fait, eh bien, nos vies changent. Nos personnes changent. On n'est plus les mêmes. Et ça se voit. Ça doit se voir. Moïse, qui n'avait même pas vu Dieu en face, personne ne pouvait regarder son visage tellement il était lumineux. Personne. Il a dû le voiler. Alors nous, qui pouvons regarder Dieu face à face, est-ce que nos visages brillent ? Est-ce que ça se voit ? Que pensent les gens quand ils nous croisent ? Qu'est-ce qu'ils voient sur nos visages ? Qu'est-ce qu'ils voient dans notre attitude ? Est-ce que nous, nous voilons nous-mêmes volontairement ? Ou est-ce que nos visages sont transformés ? Alors, c'est pas simple de garder les yeux fixés sur Jésus. Le dimanche, peut-être, lorsqu'on est plongé dans la parole, quand on est dans la présence du Seigneur, c'est plus facile. Mais quand on revient chez soi, quand on replonge dans les soucis, dans les difficultés du quotidien, eh bien, c'est pas simple. Et alors, dans l'Épître aux Hébreux, il y a un deuxième verset que j'aimerais lire, au chapitre 12. On peut commencer au verset 1 du chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. C'est pourquoi nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entoure, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, à cause de la joie qui était devant lui, qui, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Fixant les yeux sur Jésus. Il y a beaucoup de choses dans ce verset, dans ces deux versets que j'ai lus. On n'aura sûrement pas le temps de regarder chaque détail. Mais on peut voir que l'auteur de l'Épître aux Hébreux est parfaitement conscient que ce n'est pas simple de garder les yeux fixés sur Jésus. Et on l'a chanté dans notre cantique, cette prière, que dans un chemin droit, je marche sur la foi, les yeux fixés sur toi. C'est une prière qu'on peut renouveler tous les jours. Que nous dit l'auteur ? Il nous dit, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et puis il nous dit aussi, ayant une si grande nuée de témoins. Ce chapitre 12 vient après le chapitre 11, où il est parlé de tous ces témoins de la foi. Tous ces marches par la foi, par la foi, par la foi. Et c'est pas pour rien que les deux s'enchaînent. Alors, ce verset nous donne quelques clés pour garder les yeux fixés sur Jésus. Pour garder les yeux fixés sur Jésus, il faut s'inspirer de ces modèles de foi que nous donne la parole. Il faut s'inspirer, être les imitateurs de ceci. Il faut rejeter ces fardeaux, les déposer au pied de la croix. Combien de fardeaux on porte et on se remet et on se recharge chaque matin. Et bien chaque matin, on peut les déposer auprès du seul qui peut les porter pour nous. Déposons ces fardeaux. Et le péché qui nous enveloppe. On l'a rappelé dans la prière, la vie chrétienne, la marche chrétienne est un éternel renoncement. Malheureusement, on retombe souvent, on se recharge. Comment se décharger ? Comment marcher avec Jésus en fixant les yeux sur lui ? Et puis cette patience, courons avec patience. On est souvent impatient, on voudrait que les choses aillent vite dans nos vies. On voudrait, quand on se convertit ou quand on a des moments forts avec le Seigneur, on aimerait que ça change jamais, que ça reste toujours comme ça. Et on s'impatiente aussi de la venue du Seigneur. Parfois, on trouve que c'est long d'attendre. Courons avec patience. On peut aussi lire un verset qui vient dans Job. À la fin du livre de Job, au chapitre 42, Au verset 2, « Je sais que tu peux tout et qu'aucun dessein n'est trop difficile pour toi. Qui est celui-ci qui, sans connaissance, voile le conseil ? J'ai donc parlé et sans comprendre de choses trop merveilleuses pour moi, que je ne connaissais pas. Écoute, je te prie et je parlerai. Je t'interrogerai et toi instruis-moi. Mon oreille avait entendu parler de toi. Et maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi j'ai horreur de moi et je me repens dans la poussière et dans la cendre. » Job était quelqu'un qui marchait avec Dieu. Qui est comme mon serviteur Job ? Dieu lui-même en témoigne au début du livre. Et pourtant, à la fin du livre, on le voit dans cette attitude. Mon oreille avait entendu parler de toi, et maintenant mon œil t'a vu. Après toutes ces épreuves qu'il a traversées dans le livre de Job, qu'est-ce que Dieu l'amène à comprendre ? Il l'amène à comprendre que seul, il ne peut rien faire. Que c'est dans cette position, dans cette compréhension qu'il n'est rien, que seul, il ne peut rien, que là, il va voir Dieu. Que là, il va pouvoir avancer. Il faut parfois qu'on traverse des moments difficiles pour avancer avec Dieu, pour comprendre un peu plus comme on a besoin de lui, comme il nous aide, pour qu'il se révèle encore un peu plus à nous, dans ce qu'il est, dans son amour, dans ses soins. Pensons à ce qu'a traversé Job et ce mot merveilleux, maintenant, on avait vu. Je pensais aussi à Pierre. Dans, je pense que c'est dans l'évangile de Marc. Je pense que c'est plutôt dans Matthieu. Oui, c'est ça, excusez-moi, Matthieu 14. Cette histoire, tout le monde la connaît, l'histoire du Seigneur Jésus qui marche sur l'eau. On peut juste... relire à partir du verset 29. Jésus dit « Viens ». Et Pierre, étant descendu la nacelle, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Il commença à s'enfoncer. Il s'écria disant « Seigneur, sauve-moi ». Et aussitôt Jésus, étendant la main, le prit et lui dit « Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté ?» Pierre a vu Jésus au loin, marchant sur l'eau. Il a voulu le rejoindre. Dans un bel élan d'amour et de foi pour le Seigneur, et il s'est enfoncé. Mais à quel moment il s'est enfoncé ? On peut relire au verset 30, mais voyant que le vent était fort, il eut peur et il commençait à s'enfoncer. C'est quand il a vu que le vent était fort. Comment il a pu voir que le vent était fort ? quand il a détourné les yeux. S'il avait gardé les yeux fixés sur Jésus, il n'aurait pas vu que le vent était fort. Ou il n'aurait pas ressenti de cette façon-là que le vent était fort. C'est quand il a commencé à regarder à ses pieds, détourner le regard du Seigneur, qu'il s'est enfoncé. C'est exactement la même chose pour nous. C'est quand on détourne les yeux, quand on lâche le Seigneur des yeux, quand on garde nos pieds, quand on regarde ce que nous on est capable de faire, quand on pense à notre quotidien, quand on pense à ce qu'on est nous, quand on se regarde nous-mêmes, ou quand on regarde l'environnement autour, qu'on prend peur et qu'on s'enfonce. Et alors, ce qui est extrêmement encourageant, c'est que le Seigneur tend la main et le sort. Et alors, pour que le Seigneur n'ait qu'à tendre la main pour le sortir, il faut que Pierre soit à portée de main. Et vous vous rendez compte, Pierre a pris peur, s'enfoncer, alors que le Seigneur était juste à portée de main. Juste à portée de main. Et ça, on peut s'en souvenir. Quand on se sent noyé, quand on prend peur, quand on ne sait plus comment avancer, quand on s'enfonce, que le Seigneur est juste là. Il suffit de prendre sa main. Et alors on peut lire aussi, pour avoir l'autre aspect des choses, on a parlé là de nous regardant le Seigneur. Et là on peut parler aussi un peu du Seigneur qui nous regarde. Et justement, la même histoire dans l'évangile de Marc. Au chapitre 6. Il y a une chose qui m'a frappé il n'y a pas très longtemps, en la lisant. C'est ce qui est au verset 47, chapitre 6. Le soir étant venu, la nacelle était au milieu de la mer, et lui seul à terre, et les voyants se tourmentaient à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la quatrième veille de la nuit, il vient vers eux marchant sur la mer. Ce qui m'a frappé, ce qu'il n'y a pas dans l'évangile de Matthieu, c'est que là, le Seigneur Jésus les voit. Il est précisé que le Seigneur Jésus les voit. Le Seigneur ne les a jamais lâchés des yeux. Il a envoyé ses disciples, il savait que la mer allait être agitée, il savait que ça allait être difficile. Eux se sentaient seuls, mais lui ne les a jamais lâchés des yeux. Jamais. Et quand il a pensé que c'était le bon moment, il est venu les aider. Mais seulement quand lui a pensé que c'était le bon moment. Le Seigneur ne nous lâche jamais des yeux. Et alors, je voulais dire quelques mots sur ce regard du Seigneur sur nous avec quelques exemples dans les évangiles. Parce que on a chanté... Ton doux regard me suit. Ce regard du Seigneur ne nous lâche jamais, il nous suit. Et il y a certainement beaucoup plus d'exemples dans les évangiles que ce que je vais pouvoir citer de ce regard du Seigneur. Mais il y en a quelques-uns qui me viennent à l'esprit. On peut commencer par l'évangile de Jean. Au chapitre 1, verset 40, on va lire à partir du verset 41. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait ouï parler de lui, du Seigneur donc, à Jean, et qui l'avait suivi. Celui-ci trouve d'abord son propre frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui est interprété est Christ. » Et il le mena à Jésus. Et c'est ce verset que je voulais plus particulièrement lire. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, le fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, qui est interprété Pierre. » Jésus l'ayant regardé. On peut penser à ce regard du Seigneur sur Pierre, cette première rencontre entre Pierre et le Seigneur. Il est précisé, Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Pierre. Le Seigneur le regarde et lui change son nom. Et l'appelle. Le Seigneur Jésus nous a regardé, chacun de nous, pour nous appeler. Et il nous a changé. Alors il n'a pas changé notre prénom, mais il a changé notre personne. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous avons entendu l'appel du Seigneur. J'espère que tous ceux ici qui sont là lui ont répondu. Et lorsqu'ils lui ont répondu, le Seigneur a changé nos noms, a changé nos personnes. Nous ne sommes plus les mêmes. Et il nous appelle. Si le Seigneur a regardé Pierre, c'est pour l'appeler à un service. L'appeler à le suivre. Le Seigneur Jésus nous a appelé chacun de nous à le suivre. Il a donné sa vie pour nous. Si nous croyons en lui, chacun de nous, il nous a regardés. Pensons à ce regard. Ce n'est pas un regard général sur l'humanité. Bien entendu, le Seigneur a regardé tous les hommes. Mais ce regard, il est individuel, personnel. Il s'est adressé à Céphas. Il connaissait son nom. Il connaissait qui il était. Il lui a dit, je sais qui tu es. Maintenant, tu es quelqu'un d'autre et tu vas me suivre. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Rappelons-nous que le Seigneur nous regarde personnellement et nous demande quelque chose à chacun de nous. Pensez à un deuxième regard du Seigneur. J'espère que je vais retrouver. Voilà. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, l'histoire du jeune homme riche, tout le monde la connaît aussi. On peut lire à partir du verset 17. Chapitre 10, verset 17. Et comme il sortait sur la route, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, lui demanda « Bon maître, que ferai-je afin que j'hérite de la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon sinon un seul Dieu. Tu sais les commandements, ne commets point adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages, ne fais tort à personne, hors ton père et ta mère. » Et répondant, il lui dit « Maître, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et Jésus ayant regardé, l'aima. Et lui dit, une chose te manque, va, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Viens, suis-moi, ayant chargé la croix. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Ce jeune homme, il vient vers le Seigneur avec plein de bonnes intentions. C'était quelqu'un de bien. Et il veut faire quelque chose pour le Seigneur. Il veut le suivre. Et le Seigneur le regarde là aussi, lui, personnellement. Et il est précisé qu'il l'aima. Le Seigneur nous regarde chacun avec un regard personnel d'amour. Un regard qui nous connaît, qui nous sonde, comme on dit parfois, qui va très profond. Quand on dit que le Seigneur nous aime, on passe parfois un peu vite dessus, on le dit parfois un peu facilement. Mais pour aimer, il faut connaître. Et il nous connaît profondément. Et c'est ce qui rend son amour encore plus fort. Plus on connaît, plus l'amour est profond. Personne ne nous connaît mieux que le Seigneur. Personne ne nous aime plus que lui. Et ce regard du Seigneur, cet amour, il met en lumière le problème profond de ce jeune homme riche. Son enthousiasme, sa vie fidèle, tout ça, tout le monde le voyait. Mais ce que révèle le regard du Seigneur était beaucoup moins évident. Était que derrière tout ça, ce jeune homme, il avait lui aussi un fardeau, des choses qui l'empêchaient de suivre le Seigneur. Et le Seigneur lui demande de laisser tout ça. Et le Seigneur, ce qui est magnifique, c'est qu'il le savait tout ça. Il aurait pu le regarder, lui dire, voilà le problème. Maintenant, règle ton problème et suis-moi. Mais il fait bien plus que ça. Il l'aime. Il le regarde et il l'aime d'abord. Ce n'est pas un regard de jugement. Ce n'est pas un regard de reproche. Ou ce n'est pas un regard juste exigeant. C'est d'abord un regard d'amour. Le Seigneur connaît nos difficultés, il sait ce qui nous retient au quotidien, il sait ce qui est difficile pour nous, ce qui est personnel à chacun, qui peut voiler la relation avec lui, qui peut nous retenir de le suivre, qui peut nous gêner dans notre service. Il le sait. Et il nous aime. Et ce qu'il nous demande, c'est de résoudre ça pour lui, avec lui. Pensons que le Seigneur Jésus nous connaît profondément et que cette connaissance profonde, elle n'a pas pour conséquence un regard dur, accusateur ou un regard de jugement. Elle a pour conséquence un regard d'amour qui nous encourage à le suivre. Et je crois que l'heure avance, on peut aller quelques pages plus loin au chapitre 12, au verset 41, un autre regard du Seigneur. Marc chapitre 12, verset 41. Jésus étant assis vis-à-vis du trésor du temple, regardait comment la foule jetait de la monnaie au trésor, et plusieurs riches y jetaient beaucoup, et une pauvre veuve vint, et il jeta deux pites, qui font un quatrain. Ayant appelé ses disciples, il leur dit, « En vérité, je vous dis que cette pauvre veuve a plus jeté au trésor que tous ceux qui y ont mis, car tous y ont mis de leur superflu, mais celle-ci a mis de son indigence tout ce qu'elle avait, toute sa subsistance. » Jésus regardait comment il donnait, comment la foule jetait, comment la foule donnait. Et donc je pensais à ce regard du Seigneur Jésus sur cette pauvre veuve. Le Seigneur Jésus nous demande de le suivre, nous demande de laisser de côté ce qui nous empêche de le suivre, mais il regarde aussi profondément la façon dont on fait les choses. Il ne regarde pas, ce qui compte, c'est pas la quantité, c'est pas combien d'argent on met dans la collecte, c'est pas combien de temps on passe à parler de lui, c'est pas le nombre de traités ou de bibles qu'on a pu distribuer. Non, il regarde comment nous faisons les choses pour lui. Réfléchissons chacun à comment on fait pour lui. Pourquoi ? Est-ce que notre cœur est dédié ? Comment nous faisons ? Et puis, je pensais à un dernier regard. Il y en aura certainement beaucoup d'autres, mais qui me bouleverse toujours, ce regard du Seigneur sur Pierre. Encore, au chapitre 22 de l'évangile de Luc. Donc Pierre a renié le Seigneur. Et on peut lire chapitre 22. Au verset 61, ou tout à la fin du verset 60, comme il parlait encore, le coq chanta. Et le Seigneur, se tournant, regarde Pierre. Et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur, comme il lui avait dit, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et Pierre, étant sorti dehors, pleura amèrement. Le Seigneur, se tournant, regarde à Pierre. On peut imaginer le Seigneur entouré d'une foule de gardes, de gens qui l'accusaient. Et pourtant, au milieu de toute cette agitation, de tout ce monde, il y a un regard direct, personnel, que Pierre n'a pas pu manquer. Un regard qui l'a touché profondément. Le Seigneur lui avait dit, Pierre avait dit, mais Seigneur, moi je te suivrai jusqu'au bout. Le Seigneur lui avait dit, non Pierre, tu me renieras. Et là, quelques heures après, Pierre se retrouve devant ce regard du Seigneur. Et ce regard, il ne dit pas, Pierre, tu vois, je te l'avais dit, tu es incapable de me suivre. Non. Ce regard, il est plein d'amour. Il dit, Pierre, Manon, tu sauras qu'il ne faut pas compter sur toi, mais sur moi. Cette leçon, Pierre n'a jamais pu l'oublier, ça c'est certain. Ce regard, il n'a jamais pu l'oublier. Et s'il a pleuré amèrement, c'est que ça l'a touché profondément. C'est qu'il a compris. Pierre, c'était un homme plein d'énergie, plein d'enthousiasme, qui voulait faire tout pour le Seigneur. C'est magnifique de voir l'énergie de Pierre. Mais il y avait une chose qu'il devait apprendre. C'est que ce n'était pas son enthousiasme, son énergie, qui allait lui faire servir le Seigneur. Bien sûr, le Seigneur allait utiliser cette énergie. Mais il fallait qu'il apprenne à compter d'abord sur le Seigneur. Et on n'a pas le temps là, mais le complément de cette scène, c'est un petit peu plus loin. Cette discussion entre le Seigneur et Pierre. Pierre, m'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Et à la fin, la dernière fois, Pierre comprend. Tu sais toute chose. Tu sais que je t'aime. Alors pensons-nous, chacun de nous, peut-être certains d'entre nous, on a déjà expérimenté dans nos vies, une fois ou plusieurs fois, ce regard du Seigneur. Dans différents moments, différents aspects. Ce regard profond qui nous apprend, qui nous enseigne, qui est toujours un regard d'amour avant tout. Ce regard qui nous dit « Suis-moi, tu es quelqu'un de différent maintenant. » Ce regard qui nous dit « Laisse tout pour moi. » Qui regarde comment, avec quel cœur on fait les choses. Et ce regard qui nous soutient, qui nous apprend quand on s'écarte. Pensons que ce regard du Seigneur ne nous lâche jamais. Le Seigneur ne nous lâche jamais des yeux. Et que ça nous aide, nous, à ne jamais lâcher des yeux.